L'atelier des médias, Julien Lebotte.
Au pays de René Descartes, d'Henri Poincaré et de Cédric Villani, les scientifiques, les rois de l'algèbre et les dompteurs d'algorithmes sont rois. Oui, savez-vous que c'est à Paris que Facebook effectue un certain nombre de ses recherches les plus avancées, mais aussi les plus exigeantes en matière d'intelligence artificielle. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous recevions dans l'atelier des médias le chercheur et entrepreneur Claude Deloupi de la start-up Silabs, et ce dernier n'a pas cessé de nous initier aux notions clés en matière d'intelligence artificielle au service des connaissances et de l'information.
Non pas reproduire un humain, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment analyser l'humain.
L'intelligence artificielle, ce n'est pas nécessairement l'ennemi du genre humain, et encore moins le fossoyeur d'un journalisme inspiré, indépendant et rondement mené. En revanche, que Facebook, le réseau social grand public, mise autant sur l'intelligence artificielle en investissant dans un laboratoire de recherche européen basé à Paris, cela pose pas mal de questions. Et ça donne envie d'aller voir sur place pour rencontrer ces chercheurs de très haut niveau qui ont décidé de mettre leurs compétences et leur savoir au service de la firme américaine. Et vous allez voir, c'est assez fascinant, la recherche publique n'a plus le monopole du temps long en matière de recherche. C'est en tout cas ce que vous pourrez découvrir dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, c'est l'heure de notre coup de fil de la semaine et je vous propose d'appeler Salem Massala au Caire qui va nous parler d'une formidable initiative appelée, on l'espère, à se développer sur le continent africain. Je veux parler de Bassita.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Bonjour Salem.
Bonjour Julien.
Vous êtes cofondateur du projet Bassita, et Bassita, c'est un projet qui est né en Égypte. Allez, commençons par le commencement. Bassita, ça veut dire quoi ?
En fait, Bassita, c'est un mot égyptien qui veut dire quelque chose de simple. C'est un mot qu'on utilise tous les jours dans le dialogue égyptien. Et en fait, ce que Bassita a inventé, c'est le click-funding. Le click-funding, c'est un concept extrêmement cool pour les utilisateurs Internet. Il suffit pour un utilisateur Internet d'avoir une interaction sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, pour créer des financements pour une cause qui lui tient à cœur.
Alors Salem, je vous interromps un petit peu. Je suis pas sûr qu'on ait bien compris ce que c'est que le click-funding. Donc en gros, le cœur de métier de Bassita, c'est de développer cette façon de financer des projets. Grosso modo, en termes d'expérience pour un utilisateur, comment ça marche le click-funding et où est-ce qu'on peut en retrouver ?
Bah, vous connaissez le crowdfunding ?
Oui, le financement participatif.
C'est à peu près le même concept, sauf qu'il n'y a plus besoin de payer, il suffit de cliquer. En fait, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple concret pour vous expliquer. Par exemple, on a fait une campagne avec UNICEF Égypte. UNICEF Égypte avait besoin de financer 1000 connexions à l'eau courante. On a développé tout un contenu de campagne social media, vidéos, posts, à travers le problème de l'eau en Égypte. On est allé voir des sponsors. On leur a dit, écoutez, voilà, on va mettre vos logos dans ce contenu social media. En échange de quoi, plus il y a des interactions par les web users, plus vous allez financer l'impact. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça le click funding, parce que c'est un concept vraiment très, très simple. Juste en tweetant, en commentant, en partageant, en likant un contenu de social media, on crée des fonds qui vont pour une cause sociale. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que depuis le printemps arabe, les social media en Égypte continuent de boomer extrêmement fort.
Quand vous dites social media, vous voulez parler donc des réseaux sociaux qui marchent très très fort en Afrique du Nord et notamment en Égypte ?
Absolument. Et en fait, après la révolution égyptienne, on a vu à quel point les réseaux sociaux pouvaient influencer un pays. Et on s'est dit, si on arrive à catalyser cette même énergie des utilisateurs des réseaux sociaux pour financer, pour impacter des causes sociales dans leur communauté, ben on aurait un concept extrêmement fort. Donc c'est pour ça que, en fait, le click-funding, c'est quoi ? C'est tout simplement une manière de cliquer qui permet à financer une cause sociale, environnementale ou artistique.
Alors, comment vous est venue l'idée ? Quelle a été votre source d'inspiration ? Parce que, à ma connaissance, vous êtes les seuls à proposer cette technique ou ce click-funding.
Absolument. En fait, le click-funding, c'est une innovation égyptienne. C'est vraiment né ici de l'appétit de la jeunesse égyptienne pour les réseaux sociaux. Et en fait, on trouve que c'est une évolution extrêmement organique de tout ce qui est contenu réseaux sociaux, de tout ce qui est contenu web. Et en fait, l'idée nous est venue extrêmement naturellement parce qu'on s'est dit c'est quand même absolument fou que de nos jours, les réseaux sociaux ne sont pas encore utilisés de manière à créer un impact durable pour une communauté. Donc du coup, c'est un petit peu comme ça que l'idée nous est venue. C'est vraiment par rapport à l'énergie de la jeunesse égyptienne sur les réseaux sociaux. Donc on est dans ce qu'on appelle le tech for good. On développe des technologies qui nous permettent de traquer toutes les interactions qui existent sur les réseaux sociaux À chaque fois qu'une interaction occurre, ça crée des points dans la progress bar. Le plus la progress bar se remplit, le plus le sponsor finance une cause. Je vais vous donner des exemples à notre dernière campagne.
En gros, pour le raconter autrement aux auditeurs, l'idée c'est de mesurer l'engagement des internautes avec vos campagnes, et à mesure que les internautes s'engagent pour cette campagne, finalement, le montant des financements alloués à des projets s'accroît, c'est ça ?
Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sauf que toutes les interactions occurrent vraiment encore une fois sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de venir sur notre website, il s'agit vraiment d'avoir la vidéo ou bien les posts qui viennent dans notre newsfeed au quotidien. Parce que finalement, on est tous toujours connectés énormément, que ce soit sur notre mobile, que ce soit sur nos ordinateurs. Le clickfunding permet à ce qu'on soit, on fasse un clic responsable. En fait, ce qu'on dit aux utilisateurs, c'est que le clic a de la valeur et qu'il faut commencer à responsabiliser son clic. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Vous êtes à un clic de changer le monde ». Donc, en fait, le clickfunding, c'était un modèle qui marche extrêmement bien. On a pu, notre dernière campagne nous a permis d'envoyer 1100 élèves pendant un an à l'école, à peu près pour un peu moins de 3 millions de clics. Lorsqu'on a lancé notre vidéo de campagne, on a fait plus de 2 millions de vues de manière complètement organique en 48 heures. On a fait la campagne avec UNICEF pour 1000 connexions d'eau à l'eau courante. On a également permis à des enfants de voir la mer pour la première fois de leur vie. Alors imaginez-vous le regard de l'enfance qui voit la mer pour la première fois. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. On a lancé une campagne financée par l'Organisation internationale pour les migrations, pour pousser à l'inclusion entre les migrants et les Égyptiens. En fait, on a donné 1000 paires de lunettes à des brodeuses. Donc en fait, encore une fois, le clickfunding, c'est un modèle qui a fait ses preuves en Égypte, qui a aujourd'hui atteint pour un peu moins de 5 millions de clics. On a atteint plus de 10 000 bénéficiaires. Je crois qu'on est même à 12 000 bénéficiaires aujourd'hui. C'est un modèle égyptien et c'est un modèle qui est en train d'être répliqué.
Dernière question, Salem, une question toute simple. S'il y a Ouagadougou, s'il y a Tana, si en Côte d'Ivoire, on a envie de se lancer dans le clickfunding, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on vous contacte ?
Écoutez, vous nous envoyez un mail directement. Vous pouvez envoyer le mail à info@basita.org. Nous, on travaille véritablement à la réplication du clickfunding. Le clickfunding, c'est un modèle, encore une fois, africain, qui est né ici en Égypte et qui comprend les enjeux africains en termes de financement participatif. Et c'est un modèle qui a vraiment la capacité de voyager à Bamako, à Ouagadougou, à Alger et partout ailleurs dans le monde. Donc vraiment, si je vous invite à visiter notre site web basita.org. Et si vraiment quelconque est intéressé par apporter le clickfunding dans son pays, eh ben on est tout à fait ouvert à la conversation.
Salem Massala, je rappelle que vous êtes cofondateur de Basita, un projet né en Égypte, et on espère qu'il va avoir vocation à se dupliquer un peu partout dans le monde. On vous souhaite bonne continuation, merci à vous, et on vous souhaite surtout tout plein de clics.
Merci beaucoup Julien, à très vite.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias? Et si on arrêtait avec les bulles de filtre, se demande André Gunther dans un excellent billet de blog publié en début de semaine sur imagesociales.fr. La bulle de filtre, c'est un concept inventé en 2011 par Elie Pariser, activiste cofondateur de la plateforme de pétition en ligne avaz.org. Dès lors que les algorithmes font le tri des informations qui pourraient nous plaire en s'appuyant d'abord et avant tout sur nos goûts et nos préférences, il n'est pas absurde de penser que nous vivons dans un monde numérique clos, sans ouverture sur le monde et encore moins sur des opinions dissidentes. C'est ça les bulles de filtre. Pourquoi dès lors nous ressortir ce beau concept ? Eh bien c'est simple. Depuis l'élection de Donald Trump, des dizaines et des dizaines d'articles ne cessent de dire que les réseaux sociaux, Facebook en particulier, sont à l'origine de ce dérapage électoral grandeur nature pour l'une des plus vieilles démocraties de ce monde. Sauf que, nous dit le chercheur, il s'agit là d'une simplification à outrance formulée par nos bons vieux médias qui, au passage, se donnent des airs de chien de garde de l'objectivité médiatique. Oui, souligne l'auteur de ce billet de blog, c'est vrai, elles existent bien ces boîtes noires. Et l'on serait bien en peine de dire comment précisément s'opère le tri sur les réseaux sociaux à partir de tous ces algorithmes. En revanche, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le premier filtre, ou plutôt le premier tri, c'est d'abord celui qu'on s'impose à soi-même. Pour le dire autrement, et en citant le sociologue Dominique Cardon, la bulle, c'est nous qui la créons, par un mécanisme typique de reproduction sociale. Le vrai filtre, c'est le choix de nos amis, plus que l'algorithme de Facebook. Et André Gunthert de prendre le contre-pied des clichés. Non, la conversation en ligne nous a pas enfermés dans nos convictions pour toujours. Mieux encore, contrairement aux vieux médias, nos bulles d'information sont en permanence traversées par des appels d'air extérieurs. En somme, chatter, partager, faites tourner, on n'est certainement pas condamné à l'entre-soi. Effet post-trumpatique toujours, si vous me permettez le barbarisme, Google et Facebook ont décidé enfin de déclarer la guerre aux faux sites d'information en les frappant droit dans le portefeuille. Chouette, pensez-vous, mais première question, qu'est-ce qu'un faux site d'information ? C'est un de ces sites qui se font passer pour des médias, mais qui en réalité bâtonnent de la dépêche au service de leurs généreux bienfaiteurs. Exemple, rappelez-vous, il y a quelques semaines, BuzzFeed avait publié une enquête montrant qu'en Macédoine, des rédacteurs étaient employés pour nourrir des sites pro-Trump contenant de fausses informations avant de les partager sur Facebook. Comment Facebook ou Google comptent-ils désinguer ces acteurs de la désinformation ? Eh bien, Google va interdire l'usage d'AdSense, sa solution de gestion des encarts publicitaires sur un site web, aux acteurs publiant ce genre de contenu. De son côté, Facebook a annoncé qu'il allait ajouter ces sites à sa liste des sites interdits de publicité sur son réseau. Heureuse initiative sans doute, mais qui ne répond qu'imparfaitement aux enjeux. On ne peut évidemment pas bannir totalement ces sites de la toile, mais Google ne semble pas prêt à faire le tri du côté de son référencement et de Google Actualité. Pour mémoire, le soir de l'élection présidentielle américaine, ce service du géant américain avait allègrement relayé des sites diffusant de faux résultats. Le combat contre la désinformation continue. Vous connaissez la chanson, à l'atelier, on tweet presque tout ce qu'on brève au micro, donc tous les liens, toutes les références sont à retrouver tout de suite maintenant sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier_media. En juin 2015, Facebook annonçait l'ouverture d'un centre de recherche européen sur l'intelligence artificielle, FAIR, F-A-I-R de son petit nom. À l'époque, on n'a pas cessé d'entendre parler du français Yann Lequin, titulaire de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France, mais surtout directeur du dit laboratoire, et ce dernier n'a pas cessé de vanter les mérites de la recherche européenne en la matière. Un an après, à l'atelier des médias, on a eu envie d'aller voir sur place, directement, pour tenter de répondre à quelques questions qui nous taraudaient. Pourquoi diable, finalement, avoir choisi de s'installer à Paris ? Pourquoi l'Europe est-elle si importante aux yeux de Facebook ? Pourquoi miser sur l'intelligence artificielle quand on est avant tout sur un outil d'interaction entre des êtres humains ? Mais surtout, qui sont ces chercheurs qui se mettent au service de l'une des entreprises les plus puissantes de la Silicon Valley ? Mathias Virilli s'est donc rendu sur place dans les nouveaux locaux de Facebook France pour tenter d'y voir plus clair. Et on commence avec Antoine Borde et Hervé Jégou, deux chercheurs du laboratoire Facebook FAIR.
Alors le FAIR, c'est le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook qui est distribué sur trois sites, un site en Californie avec le siège de Facebook, un site à New York et un site à Paris où nous sommes actuellement.
Peut-être un premier enjeu de définition, Hervé Jégou, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ?
Alors ce que l'on appelle intelligence artificielle, c'est l'ensemble des méthodes informatiques qu'on attribue usuellement à l'humain. Je peux te prendre un exemple. Quand on regarde une image, en tant qu'humain, on peut facilement déterminer qu'il y a un arbre, un livre, etc. Et ça, c'est une tâche qui est en fait très difficile pour une machine, pour un algorithme informatique, en fait, donc qui s'exécute sur un ordinateur. Donc c'est assez contre-intuitif de se dire que c'est compliqué, mais c'est effectivement le cas. Donc l'intelligence artificielle, ça couvre en fait plusieurs domaines. Donc un domaine, c'est celui de la perception, donc tout ce qui est traiter les données en entrée, donc comme l'image, ça peut être aussi le texte. Donc par exemple, être capable de traduire du texte, c'est une tâche qui est assez difficile. Et puis il y a aussi le raisonnement, donc tout ce qui est anticipation sur le futur par exemple. Donc prévoir comment une suite d'actions également peut avoir un impact sur le futur. Donc voilà, c'est assez large et l'approche que l'on a donc dans le laboratoire FAIR, c'est une approche qui est assez mathématique, donc c'est-à-dire inspirée par ce qu'on appelle l'apprentissage machine, et donc c'est pour ça que on a essentiellement des mathématiciens et des informaticiens dans le laboratoire.
Vous, sur quoi est-ce que vous travaillez personnellement ?
Disons que je travaille essentiellement sur la vision par ordinateur, donc plutôt l'aspect perception des images en fait, donc comment déterminer ce qu'il y a dans les images, comment trouver des images similaires, comment comprendre les images.
Et vous, Antoine Borde, sur quoi est-ce que vous travaillez ici à FAIR ?
Alors moi, je travaille sur un sujet connexe à celui d'Hervé. Moi, je travaille sur la compréhension du texte et du langage par les machines. Je m'intéresse à des sujets comme le système de questions-réponses, où on va essayer d'entraîner une machine pour être capable de répondre à des questions quand on lui pose sur tout un ensemble de sujets, et aussi les systèmes de dialogue, c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable de pouvoir discuter avec une machine comme on discute avec un humain. Pour l'instant, c'est impossible.
J'ai vu que Google avait ouvert un centre à Zurich cet été, et ils ont un axe de recherche qui s'appelle « comprendre le machine learning », c'est-à-dire comprendre l'apprentissage des machines. Ça veut dire que les algorithmes sont des boîtes noires que même les chercheurs ont un peu du mal à comprendre. Antoine Borde.
Oui. Alors c'est intéressant. En fait, il s'avère qu'il y a toute une nouvelle génération d'algorithmes qui sont basés sur des réseaux de neurones qu'on appelle deep learning ou apprentissage profond, qui ont été développés au cours des 10 dernières années, avec lesquels on travaille beaucoup à faire. Et en fait, l'intérêt de ces algorithmes, c'est qu'ils sont très très puissants et qu'on peut leur faire apprendre des tâches très complexes, mais ils ont beaucoup de paramètres qui sont pas facilement interprétables. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident de toujours comprendre pourquoi l'algorithme a pris telle décision. Et donc, il y a effectivement tout un champ de recherche à l'intérieur de la communauté d'intelligence artificielle qui s'attaque à essayer de comprendre, en fait, comment ces machines fonctionnent.
Et vous, les recherches que vous menez ici, est-ce que c'est des recherches où vous laissez l'ordinateur agir par lui-même, ou est-ce que c'est des recherches où vous donnez des actions à l'ordinateur à accomplir, ou peut-être un mix des deux, ou est-ce qu'il s'agit d'auto-apprentissage? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Hervé Jégou.
Historiquement, les algorithmes qui effectuent des tâches comme celles que nous avons mentionnées auparavant, des algorithmes qui étaient vraiment faits à la main, au sens où on allait donner les étapes qui permettaient de déterminer si, oui, il y a un arbre dans une image, etc. Donc, c'était des systèmes experts, en fait, mais dans lesquels il fallait beaucoup d'interventions humaines et de l'algorithmicien, en clair, pour les faire marcher. Et donc, la grande tendance, en fait, disons de la dernière décennie, peut-être un peu plus maintenant, c'était justement de trouver des moyens pour que la machine apprenne par elle-même. Donc apprendre par elle-même, c'est-à-dire apprendre à partir d'exemples où on lui a montré, si je prends le cas de l'image, beaucoup d'images et dans lesquelles on lui a dit qu'il y avait des arbres. Et donc en voyant ces exemples, il est capable d'apprendre à s'ajuster pour pouvoir dire qu'il y a des arbres dans les images. Je ne sais pas, faire beaucoup mieux que ça. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir une machine qui apprend des tâches complètement nouvelles. Et c'est ça un peu un des challenges de l'intelligence artificielle qu'on appelle forte. Donc comment on peut avoir des algorithmes, comment on peut faire apprendre à apprendre à apprendre.
Ce qui serait vraiment une intelligence pour le coup. Antoine Borde.
Oui, 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 on peut dire que avoir une machine qui est intelligente au sens où on l'entend pour l'humain est encore vraiment très très loin dans le futur au niveau des recherches. Pour l'instant, on arrive à entraîner des machines à effectuer certaines tâches bien définies et bien segmentées, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de leur apprendre à coder des images. Après, ce sera un programme complètement différent qui apprendra à faire des systèmes de questions-réponses et un programme entièrement complètement différent qui apprendra par exemple à faire de la traduction. Un des enjeux, effectivement, ce serait d'être capable d'avoir une machine qui puisse apprendre à faire plusieurs tâches aussi différentes que ça. Pour l'instant, c'est totalement impossible.
Au final, c'est quoi le but d'un laboratoire comme celui qui vient d'ouvrir ici l'an dernier? L'intelligence artificielle et la recherche, pourquoi faire au final?
Pour moi, il y a deux objectifs. Il y a un objectif à court terme, qui est que les méthodes d'intelligence artificielle sur lesquelles on travaille actuellement peuvent améliorer des services tout de suite. Par exemple, juste quelque chose de très concret, les systèmes de reconnaissance d'images dont parlait Hervé, on les a utilisés dans Facebook pour faire de la description automatique d'images à l'usage des malvoyants. Donc en fait, qui ne pouvaient pas accéder à une grosse partie du contenu sur Facebook qui s'avère être des images. Et maintenant, grâce à un service de détection automatique d'images, on peut générer automatiquement une description en langage de ce qu'il y a sur une image. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment un produit de recherche de l'intelligence artificielle et qui rend service tout de suite.
L'accessibilité de Facebook pour les aveugles, c'est quelque chose que vous avez développé ici à Paris, ou est-ce que c'est quelque chose qui était travaillé à Menlo Park en Californie ou à New York dans le deuxième centre de recherche de Facebook?
Oui, alors c'est une question qui est difficile à répondre puisqu'en fait il n'y a pas de thématiques qui sont par localisation, ce qui fait qu'en fait les chercheurs qui travaillent sur la reconnaissance d'objets ou sur la reconnaissance d'images sont finalement répartis sur les trois sites. Donc sur un projet comme celui-là, il y a la contribution de chercheurs des trois endroits pour développer le système. On communique avec eux, on leur dit écoutez, je pense que vous pourrez mettre à jour votre base parce qu'on a quelque chose de pas mal à vous proposer.
Nous aussi, on a quelque chose de pas mal à vous proposer. Alors restez avec nous, dans un instant, nous allons faire la visite du laboratoire et découvrir quelques-uns des projets d'intelligence artificielle sur lesquels travaillent ces chercheurs de Facebook France. A tout de suite, après le flash. Atelier des médias, deuxième partie. Et je vous propose une visite guidée des locaux de Facebook France au cœur du centre de recherche où l'on réfléchit sur l'usage et les développements possibles en matière d'intelligence artificielle. Un reportage de...
Bonjour.
Bonjour.
Mathias Virilli de l'atelier des médias d'RFI.
Bon, bienvenue chez Facebook. On y va?
Allez, c'est parti. Vous faites la visite?
Oui, on va commencer. C'est à l'entrée.
Donc là, c'est la cafétéria, c'est ça? Avec une vue sur les toits de Paris. C'est pas mal.
Ouais, avec des petites tables, style bistrot, avec un petit bar, avec la vue sur Paris. Ouais. Des petites affiches, style Paris. Comme ça, les gens peuvent venir tout le temps.
Grande piscine. Travailler. Les gens travaillent ici, à la cafétéria?
Ouais.
Donc je vois que ça fait le lien entre les bureaux de l'équipe des chercheurs et le bureau des équipes commerciales, c'est ça? C'est le lien, en fait, la cafétéria.
Un des liens. Il y en a d'autres.
De toute façon, la machine à café, ça a toujours été un lien dans une entreprise.
Eh ouais, exactement. Il y a aussi le ping-pong, le baby-foot, les jeux vidéo.
Ah, vous avez une table de ping-pong?
Ouais, une table de ping-pong aussi.
Mais les employés ont le temps d'y jouer à Facebook?
Il y en a qui trouvent le temps, qui prennent le temps. Ça permet de s'aérer l'esprit.
Excusez-moi, je vois que vous êtes sur Facebook. Vous travaillez là?
Oui, bien sûr.
Vous travaillez sur quoi?
Donc moi, je travaille ce qu'on appelle le traitement du langage naturel et en particulier la traduction automatique.
D'accord. Vous venez d'où? J'entends un petit accent.
Moi, je suis allemand, en fait.
Allemand.
Mais ça fait une vingtaine d'années que je suis en France.
En quoi consiste votre travail un peu plus précisément?
Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, donc, quand on fait la traduction automatique, ce n'est pas attaquer une seule langue, mais travailler sur plusieurs langues en même temps. En fait, on développe des modèles pour faire la traduction automatique. Et donc actuellement, il y a une toute nouvelle approche qui utilise entièrement des réseaux de neurones. Donc on met ça au point, on fait différentes améliorations.
Et c'est quoi la limite aujourd'hui que vous essayez de franchir? Quel problème vous essayez de résoudre?
C'est difficile à dire une limite bien spécifique. Donc, il y a certaines langues où la traduction fonctionne très bien. Il y a certaines langues où on a très peu de données, donc ça fonctionne très mal. On essaie de profiter mutuellement des différentes ressources pour améliorer ça globalement. Après, ce qui pose parfois des problèmes, c'est des langues où il y a une très riche morphologie. Donc, il y a beaucoup de variantes des mots. Il y a des langues où l'ordre des mots est un peu spécifique. On donne toujours l'allemand comme exemple. Mais globalement, c'est pas encore au point, donc il faut encore améliorer les résultats des bases.
Et donc ça fait longtemps que vous travaillez sur ce sujet de recherche?
Oui, en fait, avant de venir à Facebook, j'étais professeur à l'université. J'ai travaillé déjà sur ce sujet de recherche pendant 7-8 ans à peu près, oui.
Et vous êtes le seul à travailler sur le traitement automatique du texte, ici, au sein de FAIR?
Ici, à FAIR Paris, on a deux autres personnes qui sont des étudiants aussi qui travaillent avec moi sur le traitement du texte. Oui. Nous, c'est plutôt des applications complètes, comme si vous dites la traduction automatique, ou même, on voit ça globalement, il y a aussi, si vous avez des images, vous voulez faire une description d'image pour les aveugles, par exemple, vous générez un texte aussi, comment on peut mieux générer les textes. Ça fait partie des choses aussi.
Donc vous savez à peu près à quoi peut mener, en termes d'application, le travail que vous effectuez au quotidien?
Oui, tout à fait. Donc, il y a, chez Facebook, effectivement, on a beaucoup de besoins de faire la traduction automatique. Il y a un grand nombre de langues. Mais on est un laboratoire de recherche. Donc, notre finalité première n'est pas faire des produits. Donc, on fait avancer la recherche. Et après, si ça fonctionne bien, évidemment, on va discuter avec les équipes qui sont plus côté produits.
Comment est-ce que vous envisagez votre métier ici à Facebook?
La mission de Facebook, c'est un peu d'aider les personnes à communiquer. Et donc, l'intelligence artificielle, ça joue un rôle de plus en plus important dans cette mission.
Et vous croyez que Facebook aide les gens à communiquer entre eux?
Oui, bien sûr. La traduction automatique, c'est l'exemple le plus facile. Parce que les personnes qui parlent des langues différentes, sans traduction automatique, ils ont du mal à communiquer.
C'est déjà un service qui est en partie implémenté sur Facebook, il me semble, non?
Oui, c'est déjà utilisé, mais effectivement, ça peut toujours être amélioré. Et surtout, il n'y a pas une couverture pour toutes les langues.
D'accord, bah écoutez, je vais vous laisser travailler. Merci beaucoup.
Alors moi, je travaille sur les problèmes fondamentaux d'intelligence artificielle qui principalement concernent la prédiction et la compréhension de concepts, d'un très grand nombre de concepts par la machine. Donc on développe des modèles mathématiques qui permettent à la machine d'apprendre des concepts et à les mettre en relation pour pouvoir les utiliser pour faire de l'interprétation des images ou de la vidéo ou alors de la compréhension de langage naturel. Je m'appelle Mustapha et je suis chercheur au laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Donc les applications sont nombreuses, elles vont de la traduction d'une langue à une autre ou à l'interprétation d'images pour les personnes malvoyantes par exemple.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler dans l'intelligence artificielle?
Alors moi, je viens du Sénégal, donc où j'ai grandi et j'ai étudié à la fac des mathématiques et de la physique. Donc c'est par la suite que je me suis mis à l'informatique, que je suis venu en France où j'ai fait un master. Donc j'ai découvert l'intelligence artificielle lors d'un projet en licence quand j'étais au Sénégal et je ne l'ai plus quitté depuis lors. Quand je suis arrivé en France, j'ai fait un master en intelligence artificielle à l'université Pierre-Marie Curie. Et la passion et la curiosité est dedans. J'ai fait un doctorat en intelligence artificielle.
Donc c'est vraiment par passion que vous faites ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous attire dans l'intelligence artificielle ?
C'est une discipline assez passionnante. Je pense que tous ceux qui travaillent ont en commun d'être passionnés par ce qu'ils font. En ce qui me concerne, c'est l'existence de questions à résoudre, de problèmes à résoudre de façon continue, parce que on ne s'en rend pas compte finalement, mais les êtres humains sont des machines très fascinantes qui ont des capacités que nous considérons généralement comme banales, mais qui sont en réalité très très sophistiquées et très difficiles à reproduire sur une machine par exemple. Ce sont là des défis qui sont à la fois intéressants et très difficile et qui pose des problèmes fondamentaux qui vont au-delà de l'informatique, qui sont des mathématiques, etc. Donc voilà.
Vous avez évoqué votre licence au Sénégal. Quelle a été votre première rencontre avec l'intelligence artificielle? Comment est-ce que vous en avez entendu parler?
Alors, moi, je jouais aux jeux vidéo avant, donc je voyais à peu près ce qu'était une intelligence artificielle, même si c'était vraiment très différent de ce qui se fait aujourd'hui. Ma première rencontre pratique avec l'intelligence artificielle, elle date d'un projet que j'avais fait durant mes études au Sénégal. Donc on avait pour tâche de développer une intelligence artificielle pour un jeu qui s'appelle le Awale. Donc c'est un jeu traditionnel qui est très populaire dans certaines régions d'Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un jeu qui démontre une certaine stratégie. Et donc on avait pour tâche de développer une intelligence artificielle pour jouer à ce jeu-là.
Un peu comme ce qui s'est fait avec le jeu de Go ou avec les échecs avant ça?
Par exemple, ouais. Par exemple.
Et vous aviez réussi?
Alors j'avais réussi, mais j'avais utilisé des méthodes qui sont complètement aux antipodes de ce que nous faisons maintenant. C'était principalement une retranscription dans la machine des règles que l'on peut utiliser lorsqu'on joue nous-mêmes. Donc c'était moins basé sur le fait de doter la machine de capacité à apprendre elle-même à résoudre le jeu qu'à lui dicter complètement comment faire pour résoudre le jeu.
L'intelligence artificielle a beaucoup évolué depuis. Est-ce que ça vous motive toujours autant aujourd'hui? Est-ce que vous vous plaisez dans ce que vous faites ici?
Ah oui, absolument. Aujourd'hui, on résout des problèmes qui sont beaucoup plus complexes, mais dont les applications finales ont quand même une capacité et un impact potentiel très important dans la société et dans l'amélioration du bien-être des gens, de leur façon de communiquer, leur façon de partager de l'information. Ça demeure tout aussi passionnant, sinon plus. Ouais. De savoir que ce qu'on fait peut avoir un impact positif sur la vie des gens, c'est quand même non négligeable. C'est aussi une motivation supplémentaire et importante. Ouais.
Les bureaux sont très silencieux, l'ambiance est très studieuse. Qu'est-ce qui fait que le travail chez Facebook est agréable pour vous?
Il y a beaucoup de choses qui font que le travail ici est très agréable. Les conditions de travail sont exceptionnelles. Mais au-delà de ça, il y a le plus important à mon avis, c'est le fait, parce que la recherche n'est pas une entreprise individuelle. Donc, nous travaillons sur des problèmes en commun. Donc c'est des challenges que l'on attaque mais en équipe. Donc le fait de faire partie d'une équipe dans laquelle il y a des gens aux compétences différentes mais que l'on puisse s'enrichir mutuellement de toutes ces compétences-là et qu'on puisse apprendre l'un de l'autre et faire des pas en avant sur tous les problèmes qui nous intéressent, je pense que c'est quand même un aspect assez important et assez exceptionnel en ce qui concerne l'équipe qui est ici. Ouais.
Peut-être une dernière question pour finir. Je vois que les plafonds ne sont pas terminés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi?
Donc les plafonds, aussi bien que toute autre chose ici, rien n'est terminé. Ça reflète une certaine philosophie en fait de l'entreprise, qui est que on se met dans une perspective de progrès perpétuel, de faire avancer les choses de façon perpétuelle.
Mais en quoi le fait d'avoir des plafonds qui ne sont pas terminés est synonyme de progrès?
Parce que c'est à faire.
Donc c'est prévu que ça soit fait ou c'est prévu que ça soit toujours à faire?
Je pense que c'est à faire. C'est ce que je peux dire. Je sais que c'est à faire.
Et vous, vous n'allez pas le faire?
Moi, j'ai d'autres choses à faire.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Exactly. What I meant by it. What I meant was it's very heavy. I'm a scientist of sound, mathematically putting it down, and not with all standing on the verge of getting it on.
Our goal is to build intelligent machines to
help people in their lives.
What makes us intelligent is our ability to learn.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là, à peu près, l'écran? Donc on est sur l'accessibilité de Facebook aux aveugles, c'est ça?
Oui, donc en fait, on a une vidéo qui raconte un peu comment nos recherches peuvent être impliquées pour améliorer l'accessibilité au contenu média, que ce soit images ou texte, pour des gens qui n'ont pas l'accessibilité.
Donc là, on voit qu'ils sont en train de filmer un chien. C'est pour que l'algorithme reconnaisse...
Voilà, donc là, la vidéo montre un peu comment l'algorithme est capable de reconnaître différentes races de chiens juste en regardant les images. C'est...
Voilà. Et ce service, il est déjà disponible ?
Voilà, ce service est disponible aux États-Unis pour l'instant.
Et il sera lancé en France prochainement, vous savez ?
J'espère, mais j'ai pas de... Pour l'instant, le service ne parle qu'anglais. Et voilà, mais donc on voit que les utilisateurs malvoyants peuvent se connecter à Facebook et le système peut décrire l'image pour dire voilà, vous avez reçu une image de tel ami et la photo contient un gâteau d'anniversaire avec des bougies et puis trois personnes en train de sourire autour et voilà, donc ça permet aussi de dire voilà, la photo a eu trois likes et elle a été commentée par cette personne qui a dit ça, voilà, donc ça permet en fait d'avoir une interaction avec ses amis, avec ses connexions, même si on n'a pas accès vraiment à la vision.
Et on voit les personnes malvoyantes ou aveugles parler à leur téléphone. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent interagir aussi avec Facebook pour leur demander plus de détails ou plus d'informations? Ou de répondre, tout simplement?
Malheureusement, pas encore. C'est-à-dire que le système est passif, c'est-à-dire qu'il est capable de décrire ce qui est sur l'écran, mais on n'est pas encore capable de commenter en langage. Mais c'est une très très bonne piste de recherche. Bravo.
Bah, j'ai hâte de voir ça sur mon Facebook.
La fin de la vidéo décrit un peu les grands challenges qui justement dont celui que vous avez parlé, mais grand challenge pour essayer que les machines puissent plus loin et qu'on puisse effectivement répondre pour dire voilà, est-ce que voilà, tu m'as montré ce contenu, c'est très intéressant, est-ce que tu peux montrer d'autres contenus qui ressemblent, ou est-ce que tu peux poster ça pour moi, ou est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, ça serait des choses, un espèce de Facebook qui soit plus personnel et assistant. Voilà, qui sont des choses qui nécessiteraient d'avoir des algorithmes derrière qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus intelligents en fait. Voilà, et ça c'est des thématiques sur lesquelles on recherche, mais qui sont encore assez à long terme.
Et c'est des beaux locaux quand même que vous avez ici.
Ouais, c'est magnifique. C'est tout neuf, ouvert il y a 3 mois.
Et même la devanture, on dirait que le bâtiment a été retapé. Donc là, c'est les équipes commerciales.
Exactement. C'est aussi très silencieux.
Ouais, c'est assez silencieux, oui. Je vois qu'il y a beaucoup de posters ici, mais pas beaucoup de posters Facebook. J'en ai vu quelques-uns, par contre.
Tous les posters sont des posters Facebook, et parce qu'il s'appelle Facebook Analog Lab, qui est en Californie, et qui fait le design des posters, qui fait l'impression des posters sur des papiers spécifiques, etc.
Je vois qu'il y en a un là-bas qui dit « Rien à Facebook n'est le problème de quelqu'un d'autre ».
Voilà, ça fait partie des devises... Des devises de l'entreprise, comme celle que vous avez là-bas. Be open, soyez ouvert.
Vous avez un ensemble de devises comme ça, sur lesquelles vous vous appuyez le matin en vous réveillant?
Peut-être pas tous les matins, mais c'est vrai qu'elles sont sur les murs. Donc voilà. C'est comme celle-ci qui est assez rigolote. Kick the shit out of option B, qui veut dire aller à fond sur option B quand option A est plus disponible.
Ah, je vois qu'il y a un distributeur aussi de gourmandises qui, pour le coup, lui, est vraiment Facebook.
Voilà, bah, en fait, c'est un distributeur juste de matériel informatique, donc plutôt que de devoir toujours demander à un technicien quand on a besoin d'un câble ou d'un chargeur de téléphone, choses comme ça. En fait, effectivement, il y a un distributeur, mais il faut avoir un badge Facebook pour pouvoir accéder à ce distributeur.
Mais il est payant, ce distributeur?
Pas pour les employés.
Excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger un instant?
Oui.
Sur quoi vous travaillez ici, chez Facebook?
Moi, je travaille sur la reconnaissance de la parole dans le cadre d'une thèse en co-tutelle au laboratoire Facebook AI Research et au département de sciences cognitives de l'école normale supérieure.
Donc vous êtes encore étudiant?
Oui, doctorant donc. Encore en cours de première année de doctorat.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici au laboratoire FAIR de Facebook?
Donc ça va faire bientôt un an. D'abord dans le cadre d'un contrat prédoctoral et puis ma thèse a commencé officiellement il y a maintenant 7 mois.
Et vous travaillez sur quoi en termes de reconnaissance de la parole? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Donc ce que je fais, ça se fonde en fait sur un constat qui est que donc tous les systèmes de reconnaissance de la parole qui sont aujourd'hui déployés dans l'industrie sont des systèmes qui nécessitent des heures et des heures de parole qui souvent sont à l'échelle de centaines d'heures ou de milliers d'heures et qui ont été annotées à la main par des gens. Un des principaux problèmes, c'est que de telles bases de données, donc beaucoup d'heures de parole annotées, c'est disponible en anglais, c'est disponible en mandarin. En revanche, il y a de très nombreuses langues où c'est beaucoup plus difficile à collecter. Et il y a même des langues pour lesquelles c'est quasiment techniquement impossible parce que il y a des langues, notamment si on prend des variations de dialectes de différentes langues, il n'y a pas nécessairement d'orthographe standard, il n'y a pas un moyen simple de transcrire. C'est difficile de définir un standard de transcription. Et donc pour ce genre de tâches, typiquement, c'est impossible en pratique d'exploiter les systèmes actuels. Donc nous, ce qu'on essaye d'explorer comme axe, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire des systèmes de la parole qui ne nécessitent pas de telles bases annotées. Et la raison pour laquelle on considère que c'est un défi qui est possible à relever, c'est parce que, en fait, on le fait tous, chacun de nous, quand on apprend le langage. Parce que l'être humain est capable d'acquérir le langage avec une quantité d'heures qui est beaucoup plus limitée que ce qui est exploité par les systèmes actuels. Donc, c'est une preuve de principe que cette tâche, elle peut être résolue a priori sans nécessairement avoir à sa disposition des quantités énormes de données qui soient notées. D'autant plus que le langage, c'est pas quelque chose de fixe, ça évolue avec le temps. On peut avoir de nouvelles classes d'utilisateurs qui apparaissent, de nouveaux accents qui émergent, une évolution du vocabulaire. Et dans le cas des systèmes actuels, tout ça, ça nécessite de recollecter des données, de les réannoter et de réentraîner les systèmes. Donc c'est toutes ces raisons qui justifient que c'est une approche qui est vraiment intéressante, aussi bien pour son côté scientifique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de mieux comprendre l'acquisition du langage chez l'humain, mais aussi pour des questions vraiment pratiques de comment est-ce qu'on peut faire des systèmes qui peuvent s'adapter à tous les dialectes, aux variations qu'on peut trouver dans les différentes langues, à l'évolution du langage.
Si j'ai bien compris, vous essayez d'apprendre aux machines à comprendre naturellement le langage, c'est ça ?
Tout à fait, donc on essaye de réduire la dépendance progressivement à ces annotations. On essaye de se rapprocher le plus possible du cas où on n'aurait pas accès à de telles données. Par exemple, on a fait une contribution où donc on entraînait un système de reconnaissance de la parole sur de l'anglais. Et on essayait de voir si ce qu'on avait appris sur de l'anglais, on pouvait le transférer à une autre langue qui est le Tshitshonga, qui est un dialecte qui est parlé principalement au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique du Sud, pour lesquels il existe quelques données annotées qui nous permettent donc d'évaluer la performance de notre système, mais qui fait partie des langages typiquement qui sont très différents des langues très bien documentées et où ça peut être susceptible d'être difficile de collecter des données et de les annoter. Et donc ce qu'on montrait, c'est que ce qu'on avait réussi à apprendre sur une langue, on pouvait le transférer à une autre. Donc on n'est pas dans le cadre de la collecte de données ou d'annotations. À vrai dire, on essaye de faire l'inverse, on essaye de faire en sorte qu'on puisse développer des systèmes qui aient plus besoin d'avoir cette collecte systématique.
Vous êtes jeune quand même pour travailler chez Facebook, non ?
C'est l'âge normal d'un début de thèse.
Vous avez quel âge ?
J'ai 25 ans.
Qu'est-ce qui vous plaît ici à travailler au quotidien ?
Pour un doctorant, c'est une situation idéale parce que donc on interagit en permanence avec des chercheurs d'une très grande qualité. Il y a aussi l'accès à des ressources de calcul qui sont significatives et qui sont très facile à exploiter, et donc à toute l'infrastructure de Facebook qui est idéale pour faire des expériences comme les nôtres, qui sont en fait des expériences qui sont très gourmandes en ressources de calcul. Et donc pour ça, c'est vrai que c'est sans pareil, on va dire. De ce que j'ai entendu plusieurs fois, c'est pas systématiquement le cas. Or, à faire Paris, on a eu la garantie dès le début, les autres doctorants et moi, et c'est le cas, et ça se vérifie chaque jour, que la totalité de notre temps soit consacrée à l'élaboration et à la réalisation de notre sujet de recherche. Et ça, c'est une vraie valeur.
Vous n'avez pas de journée vraiment type, au final vous avez un catalogue de...
Non, parce qu'en fait, réaliser un travail de recherche, c'est des phases qui sont plutôt par différentes périodes. Donc au début, il faut élaborer le sujet. Donc ça consiste notamment à lire la bibliographie, donc chercher qu'est-ce qui existe déjà, pour essayer de ne pas réinventer des systèmes qui existent déjà, de ne pas résoudre des problèmes qui ont déjà été résolus, pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Une fois qu'on a cerné à quel problème on peut contribuer, quel défi on peut relever, il s'agit d'élaborer une stratégie et un système qu'on puisse proposer pour résoudre cette tâche. Et une fois que ça a été fait, il faut le mettre en pratique. Donc ça prend notamment la forme de la programmation de tous ces systèmes. Et donc ça, c'est vraiment trois phases qui sont successives et donc qui sont très différentes les unes des autres.
Alors, on a des algorithmes performants, mais on pense qu'il leur manque des éléments afin qu'ils puissent acquérir des capacités de raisonnement. Je m'appelle Antoine Borde, je suis chercheur au laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook à Paris. Et donc c'est ce qu'on cherche, quels sont les éléments qui manquerait à ces méthodes. Voilà. Je pense que c'est la plus grosse limite. Après, les capacités de calcul, on aimerait en avoir des plus rapides, mais ça s'améliore très rapidement et on est capable de traiter des données de façon de plus en plus rapide. Donc ça, je dirais que ça, c'est moins gênant.
Il faut quand même mentionner qu'on travaille beaucoup avec les données académiques, en fait, contrairement à ce que les gens croient. Et c'est un point qui fait parfois fantasmer, mais c'est quelque chose qui fait que nous sommes vraiment très proches du fonctionnement d'un laboratoire académique. Et nous, en tout cas, on travaille sur des données publiques pour pouvoir se comparer directement en fait, à ce qui est fait par ailleurs. Je suis Hervé Gégou et également chercheur dans le laboratoire français en intelligence artificielle de Facebook.
Facebook, ici, le laboratoire a ouvert l'an dernier. Google a ouvert un centre de recherche cet été à Zurich. Je sais qu'il y a aussi Google à Londres, de même que Microsoft. Pourquoi est-ce que les entreprises américaines, à votre avis, investissent l'Europe comme ça avec des centres de recherche ?
Le champ de l'intelligence artificielle est un champ très très actif actuellement en recherche. Et on sent que c'est une période dans laquelle on va pouvoir sûrement faire des découvertes très intéressantes et très importantes. Le fait est que juste en restant aux États-Unis, on se coupe de toute une partie de la communauté de recherche. Et c'est quelque chose que toutes les entreprises que vous avez citées ont bien compris. On ne peut pas rester juste aux États-Unis si on veut être capable d'attirer les meilleurs talents, mais aussi de collaborer avec les meilleurs chercheurs.
Le laboratoire est dirigé par Yann Lequin, qui est donc un pionnier de l'intelligence artificielle, qui est français également et qui est basé à New York. Quand il a été lancé, ce centre de recherche, Mike Schroeffer, qui est le directeur de la technologie de Facebook, a dit que Paris avait la plus grande concentration de talents de toute l'Europe. Est-ce que c'est vrai et comment est-ce que vous l'expliquez ?
C'est totalement vrai. On l'explique par plusieurs raisons. Il s'avère qu'il y a une culture mathématique en France dans la façon de conduire les études depuis très longtemps. Donc depuis très longtemps, il y a des très très bons mathématiciens en France. Les mathématiques sont la base de la façon dont on traite l'intelligence artificielle ici. Et en même temps, il y a aussi une très grande culture informatique. Il y a beaucoup aussi de start-up très performantes qui se montent à Paris. Il y a tout un vivier de jeunes développeurs. Donc en fait, tout ça fait effectivement que Paris est une place très très attractive pour développer l'intelligence artificielle.
Et est-ce que les chercheurs français sont formés par exemple sur des sujets de recherche en intelligence artificielle particuliers ? Est-ce qu'ils sont particulièrement bons dans un domaine de recherche spécifique ?
Oui, alors depuis une dizaine d'années, les formations en intelligence artificielle se multiplient en France. Toutes les grandes universités et toutes les grandes écoles ont maintenant un parcours ou un master ou une formation en intelligence artificielle ou en... qu'on appelle en data mining, qui est à peu près une science un peu connexe. Même en dehors en fait, du laboratoire d'intelligence artificielle, à Facebook, particulièrement aux États-Unis, il y a en fait beaucoup de Français dans beaucoup d'autres services, que ce soit dans Messenger, dans ce qui permet de traiter la vidéo. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs français qui marchent aussi, parce que cette formation ne sert pas juste à faire de la recherche en intelligence artificielle, mais bénéficie en fait à toutes sortes de services.
Vous êtes combien ici au laboratoire ?
Alors, au laboratoire, nous sommes une vingtaine actuellement.
Et donc une vingtaine de Français ?
Non, alors la majorité est française, mais en fait, on a des chercheurs de toute l'Europe. Ils viennent d'Italie, d'Espagne, de Russie, de Pologne. On a aussi un chercheur sénégalais et de Suisse aussi. Enfin, je n'ai pas toutes les nationalités, mais en fait, Angleterre également. Donc, ce n'est pas parce que la France est un très bon pays qu'on va juste essayer d'embaucher que des Français. On s'ouvre à toute l'Europe, mais effectivement, la majorité reste française.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans l'intelligence artificielle ?
Ouais, ça c'est une bonne question, ça remonte à plus d'une dizaine d'années. La plupart des chercheurs qui sont ici, on est à peu près tous motivés par essayer de créer une machine qui sera capable d'avancer, comment est-ce qu'on peut comprendre les données, comprendre le monde qui nous entoure, pour améliorer en fait les services qu'on peut proposer. Moi en particulier, depuis toujours, j'ai été fasciné, intéressé par la compréhension du langage, essayer de voir est-ce qu'on pourrait... avancer la façon dont une machine peut comprendre un texte, comprendre un livre, comprendre une histoire. Voilà, est-ce que pour faire du résumé, pour faire une traduction, pour essayer de capable de répondre à des questions. C'est des sujets qui, depuis que je suis à l'école, m'ont vraiment passionné. Donc en fait, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Et là, maintenant, à Facebook, je pense que j'ai l'environnement parfait pour faire ces recherches.
Et vous, Hervé Gégou, est-ce que c'est le fruit du hasard, votre présence ici, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui vous a fait aimer l'intelligence artificielle ?
Alors moi, ma situation est un peu différente. Donc j'ai fait une thèse plutôt en théorie de l'information, donc c'est plutôt en télécommunication. Évidemment, à un moment, j'ai vu toute l'animation qu'il avait autour de tout ce qui était vision par ordinateur et intelligence artificielle. Et donc ça donne bien envie d'être là où les choses se passent. Et donc c'est pour ça que j'ai effectué un virage thématique, donc quelques années après ma thèse, vers des thématiques qui me semblent tout à fait intéressantes et où on sent qu'il va se passer plein de choses dans les années à venir.
Peut-être une dernière question pour vous, Antoine Bord, et pour vous, Hervé Gégou. Est-ce qu'il existe une vie après Facebook ?
Ah bah, c'est une très bonne question. Je n'ai pas encore la réponse pour l'instant. Pour un chercheur, en tout cas, on est quand même à peu près dans le laboratoire rêvé. Donc, c'est des questions qu'on ne se pose pas souvent. Un des intérêts, c'est que vu qu'on fait de la recherche en milieu ouvert, on n'est pas juste à Facebook et complètement disparu de la circulation. On est toujours intégré dans la communauté de recherche, ce qui fait qu'on va toujours en conférence. On donne toujours des présentations dans des universités. On peut même toujours donner des cours dans des cycles d'enseignement. Donc, en fait, on existe toujours dans la communauté de l'apprentissage machine mondiale. Donc, effectivement, s'il devait y avoir une vie après Facebook, on pourrait toujours continuer à faire notre recherche, on est toujours totalement intégré à la communauté.
Et vous, Hervé Gégou ?
Donc c'est pareil, j'ai pas trop réfléchi à la question parce que je trouve que c'est effectivement, on est un peu dans le laboratoire de rêve, quoi. Donc ouais, j'y réfléchirai peut-être un jour, mais c'est pas une question que je me suis posée encore, en fait.
Au cœur des recherches sur l'intelligence artificielle selon Facebook, un reportage de Mathias Virilli dans les locaux de Facebook France. La version longue de cette traversée radiophonique est à retrouver sur atelier.rfi.fr. La semaine prochaine, ce sera une semaine un peu particulière pour l'atelier des médias puisque nous serons à Madagascar, au cœur du village de la francophonie. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à passer nous voir. Toute l'équipe de l'atelier y sera en compagnie de près de 50 mondoblogueurs. J'en profite pour dire que nous enregistrerons le mercredi 23 novembre, une émission à partir de 16h30 dans le studio mis à disposition par l'OIF au cœur de ce village. Et nous parlerons notamment d'accès à l'information pour la jeunesse malgache, des réseaux sociaux ou encore d'innovation média à Madagascar. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous comme vous le faites souvent sur les réseaux sociaux. L'atelier des médias, une émission préparée par un quatuor échevelé, Manon Mella, Marie-Stéphanie Servos, Mathias Virilli et Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, au micro Julien Lebotte. L'atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.
International.